de Boulevard 102.1.
Je vais même pas expliquer ma réaction. J'étais la fille la plus heureuse sur Terre.
Avec Denis, Véro et Audrey. Gravel.
Boulevard 102.1.
En rafale, on va regarder ce qui se passe à Québec présentement. Il y a des problèmes de circulation, mais il y a aussi un incendie en cours. Véro.
Yes, c'est une deuxième alarme, en fait, qui a été déclarée. C'est un incendie au 1245 boulevard Montmorency. C'est en face de l'incinérateur. C'est pas l'incinérateur qui est en incendie à ce moment-ci. Là, c'est une entreprise, donc un bâtiment industriel. Il y a du délaissage qui a été fait.
Mais ça brûle à l'incinérateur. Ouais. C'est à ça que ça sert. Ouais, c'est ça. C'est pas de ça que tu parles.
C'est pas de
l'incinérateur brûle, mais ça, c'est normal.
Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est un incendie dans la toiture de ce qu'on peut comprendre.
Es-tu fatigué, Véro, un petit
Pourquoi?
Peu, quand même? Non.
Qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai l'impression d'écouter un bulletin de circulation de Max à 17h22.
OK, on recommence. Il y a un incendie.
Mais
qui est
pas
en
dans l'incinérateur.
Non, c'est en face de l'incinérateur. Là, ça brûle à une place que c'est
Parce
pas supposé brûler.
Je lis mes informations au fur et à mesure. Fait que voilà, il y a de la boucane dans le coin de l'incinérateur.
C'est où? Dans quel coin?
1245 Montmorency. Tu m'énerves. Tu me tends des pièges, puis après ça, tu me tournes au ridicule.
Non. T'es juste brûlé. Hein? Excusez, je t'en feu.
Vas-y, Max, fais une belle circule.
Oui.
Laurentienne Nord, hauteur de rue Soumande, la voie droite qui est bloquée par une panne. Et bon, tant qu'à être dans le thème, camion en feu sur la 20 ouest, hauteur de la route 116 Saint-Nicolas, kilomètre 311. Sortie voie droite qui semble être toujours bloquée, là. Ce qui fait que présentement dans le secteur, ça refoule. Je vous ai parlé, là, le problème vraiment 20 ouest, bien là, ça refoule sur la 20 jusqu'à l'autre bord de la 73 et jusqu'à sur le pont Pierre-Laporte et c'est pas bon ça. Henri IV, direction sud, là, ça refoule déjà jusqu'à l'autre bord de la 40 en raison de ce camion-là sur la 20.
Et permets-moi de t'interrompre, là, Max. on nous signale également une auto en panne là, sur Laurentienne Nord à la hauteur de Soumande.
Ouais, je l'ai. Ah, ben, c'est pas ça que je viens de dire.
Hey, c'est ce show est spectaculaire.
c'était ce que je venais de dire.
Je viens de répéter quelque chose que tu as dit?
Oui.
Okay. Excuse-moi de t'avoir interrompu.
Tu peux plus rien de gravel!
Non, mais... Qu'est-ce qu'on fait pour que ce show-là retrouve un peu de crédibilité?
Hey, kids! Vous êtes prêts pour votre leçon de finance et fiscalité?
Je vous demande de vous arrêter.
Mais voici Alex Legault.
La barre est basse pour Alex Leblond, planificateur financier. Salut, man!
Salut, vous autres!
Mettre la pression ailleurs, c'est une excellente stratégie.
Oui, je pense que c'est ça qu'on va faire. Parler d'économie, parler aux jeunes plus particulièrement aujourd'hui.
Ouais.
Puis je pense que tu veux vérifier plusieurs choses qu'on entend concernant l'accession à la propriété en général.
Oui, c'est surtout qu'il y avait un gros dossier dans les médias québécois en fin de semaine sur... Même dossier qui revient à chaque 6 mois depuis 5 ans, là, avec des noms différents puis des chiffres un peu différents. Mais tu sais, toujours le même dossier sur... Puis là, il y a plein de termes. Là. Il parle de génération sacrifiée, la fin du rêve de la propriété, les jeunes ne seront pas capables de se bâtir un patrimoine.
C'est alarmiste.
C'est très alarmiste.
C'est-tu réaliste?
Pour certains, oui. Pour d'autres, non. C'est... Le but aujourd'hui, c'est de mettre tous ces chiffres-là en contexte parce qu'en absolu, il n'y a rien de faux qui se dit.
Mm-hmm.
Mais il faut voir, OK, c'est-tu si pire qu'avant? C'est quoi les paramètres qui ont changé? C'est quoi qui est vrai? Qu'est-ce qui est faux? On démêle ça un peu aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de stock qui se dit qui est partiellement vrai, mais okay. Qui n'est pas tout à fait mis en contexte.
Le prix des maisons, ça a-tu explosé ou pas?
Ça dépend. C'est une bonne réponse.
C'est politicien un peu.
Bien, hein? La patente avec le prix des maisons, puis il y a quelque chose qui s'appelle l'indice Terranet. Là. C'est fait avec Banque nationale. Là. Vous pouvez aller voir ça sur le web, c'est super bien fait. Ça prend les prix des propriétés pour chacune des grandes villes au Canada.
OK.
Grande étant relatif, là, mm-hmm. Mais tu sais, la ville de Québec là-dedans. Fait que tu peux voir là, depuis 1990-1991 comment le prix des maisons a augmenté à Québec. On s'entend, le marché immobilier, c'est un marché. Fait que n'importe quel marché est cyclique. Des fois, ça stagne, des fois, ça monte, des fois, ça baisse. Mettons, prenez sur un mois, le prix des maisons a baissé à Québec. Moins 2,22%. Fait que, on s'entend, personne n'en parle quand c'est plus bas que haut. Là.
Ouais.
Mais en moyenne, là, par année, une maison à Québec, ça prend 4,45%.
En moyenne.
En moyenne.
Il y a des années où ça va être plus que ça, puis il y a des années où ça va être, mettons, de la stabilité ou même des petites baisses.
Oui. Fait que tu vois, depuis un an, là, quand on reprend, ben, mettons, à partir d'hier, là, ça avait monté de 9,05% sur un an. Mais tu sais, la moyenne, parce qu'on s'entend, un bien immobilier, on n'achète pas ça pour 3 ans, là, on achète ça pour 20, 25, 30 ans, c'est 4,45% en moyenne à peu près.
Puis les salaires suivent pas.
C'est là une partie du problème. Sur la même période, puis ça, on s'entend, c'est jamais parfait parce que c'est des données moyennes, ce qui veut dire que ces données-là ne s'appliquent pas exactement à une personne au Canada ou au Québec.
Ouais.
C'est les moyennes. Mais les salaires pendant ce temps-là ont augmenté à peu près, dépendamment des sources, là, entre 2 et 3 %. Fait que c'est dans la fourchette inférieure du 2 %.
Dans les autres facteurs qu'il faut considérer, il y a évidemment les taux hypothécaires qu'on renégocie aux 5 ans, qu'on essaye de suivre, on essaye de s'avantager le plus possible. Puis il y a aussi l'aide gouvernementale quand il y en a, puis quand elle est faite dans le sens du monde. Là.
Exactement. Puis c'est là où, quand on remet tous les chiffres en contexte, là, on se rend compte que ce qui se dit présentement n'est pas faux, mais est grandement alarmiste. Parce que, puis ça, c'est, si vous vous rappelez, la première chronique qu'on a faite ensemble, là, c'était ça le sujet. Comme de quoi le dossier de Québécois revient souvent. Là. le sujet, c'était « Hey, c'est-tu vrai qu'une maison en 80 versus en 90 versus aujourd'hui?
Ouais. »
On l'avait regardé ça, puis ce qu'on voulait aller voir, c'est OK, ben oui, les maisons coûtaient 48 000 en 1980, mais ça me dit rien, ça. Ce que je veux savoir, c'est quoi le pourcentage de l'argent qu'on a dans les poches qui est destiné à l'achat au paiement hypothécaire?
Ouais, ouais,
parce qu'ultimement, oui, les maisons étaient moins chères, mais le taux était dans le plafond, t'sais, il était à 13, 14, 15, 18 % même. Quand on regarde, puis on ne fera pas la chronique au complet, là, mais en 1980, maison coûtait 48 000 $ Les deux membres d'un couple rentraient 21 000 $ en revenus. Le taux était à 13 %. Fait que, tu sais, ton paiement hypothécaire, là, il représentait à peu près 31 % de ce que tu as de disponible dans les poches.
OK.
En 90, ça avait monté à peu près à 35 %. Ça a redescendu dans les années 2000. Puis là, j'ai les chiffres pour 2024 que j'ai mis à jour. On est à 29 %.
Fait que en 1980, c'était 31 %. Là, c'est 29 %. On est à peu près dans les mêmes eaux.
On est à la même place.
Ouais.
Pourquoi? Parce que les taux sont beaucoup plus bas.
Oh.
Oui, ils ont monté récemment, mais tu sais, on remet, tu sais, when in doubt, zoom out, c'est tout le temps ça.
Mais c'est parce que là, il y a plein de monde qui s'inquiète parce que les taux sont à 5 %. Genre, on avait du 13 %. Là.
Les taux aujourd'hui sont inférieurs à la moyenne historique. Là.
OK. Encore.
L'anomalie, c'était pas. L'anomalie, c'est pas ce qu'on vit depuis 2 ans.
C'est le très, très bas taux qu'on a eu il y a quelques années de ça qui a donné des opportunités à bien du monde qui sont peut-être à côté.
Exactement. L'anomalie, c'est ce qu'on a vécu avant ça. Puis ça, c'est un gros problème là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes de 40 ans et moins qui, eux autres, ont jamais connu des gros taux d'intérêt, mais ça reste que c'est ça la réalité, c'est ça la normalité.
Là. Mais là, Alex, si ça représente à peu près la même chose dans nos portefeuilles qu'en 1980, pourquoi on capote? Il est où le problème?
Bien, il y a... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, t'sais.
Mm-hmm.
Parce que oui, on est à peu près à la même place, mais il y a certains... Tu sais, quand tu regardes les ratios, là, nous autres, on utilise ça en planification financière, là,
ouais.
Faut pas que ce que tu destines à l'habitation dépasse un certain pourcentage.
C'est quoi le pourcentage?
Ça dépend toujours de quelle source tu regardes. Là,
ah, c'est une formule secrète, il veut pas nous le dire. OK, OK.
C'est notre propriété intellectuelle.
C'est un sorcier intello. Là.
Généralement, là, parce qu'il y a comme différentes visions, c'est surtout ça.
OK.
Tu sais, mettons que tu as un client à Toronto... Ben, tu vas lui donner plus de... Naturellement, il va payer plus pour son hypothèque qu'un client à Trois-Rivières, tu sais.
Ouais.
Fait que t'as comme cette variante-là. Mais généralement, là, t'es pas supposé dépasser 35
%. Au-dessus de ça, tu risques de te mettre dans le trouble s'il y a des variations.
Mais c'est ça. Mais ça, c'est toutes les dépenses reliées à l'habitation. Moi, j'ai juste parlé d'une hypothèque là-dedans.
OK, fait que tu rentres là-dedans de tout ce qu'il y a, les taxes, entretien, les dépenses qui vont être liées à ton toit. Là.
Exactement. J'ai pas assuré la maison, j'ai pas mis de gouttière, j'ai rien fait encore.
Mm-hmm.
J'ai juste payé mon hypothèque. J'ai juste payé mon droit d'entrée. Tu sais, quand tu t'en vas à ronde, là, t'as ton droit d'entrée. Là.
T'as
là,
pas mangé puis t'as pas rien fait d'autre.
À 29 % j'ai le droit d'entrée. J'ai le droit qu'il n'y a pas d'huissier qui cogne à ma porte. Mais j'ai rien encore. Fait que ça, c'est un problème en soi.
Ouais.
Les dépenses, oui, le pourcentage, c'est pour l'hypothèque, est à peu près pareil. Mais toutes les dépenses connexes elles ont beaucoup monté à travers le temps. Ce qui est vrai aujourd'hui, il n'était pas nécessairement en 80, 90, 2000. Fait que ça, oui, sur cet aspect-là précis, il y a une grosse différence entre les jeunes, leurs parents puis leurs grands-parents.
OK. Si on regarde les solutions, les moyens d'aider, je vois que tu les as comme séparés en deux catégories. Les moyens qui ont de l'allure puis les moyens qui n'ont aucun sens.
Oui, exactement. Parce que l'article était bien fait pour ça en fin de semaine, c'est que tu sais, moi, j'ai ça quand on expose un problème, mais pas de solution. Mm-hmm. C'est comme, OK, ben, ça sert à quoi cet article-là? On n'avance pas. Fait qu'au moins, dans l'article, en fin de semaine, il y avait différentes solutions. Puis, on s'entend, vu que c'est un enjeu à la mode, il y a un paquet de gens sur tous les spectres là, qui pêchent des idées. Il y en a trois qui sont vraiment pas bonnes, OK? Mais c'est les trois les plus sexy. La première, là, c'est de dire, hey, on faisait ça avant, permettre aux gens d'acheter sans mise de fonds. On pourrait faire exactement la même affaire. Fait que là, tu retournes, mettons, 2007-2008. On a déjà fait une chronique là-dessus aussi.
Oui, oui.
Tu pouvais acheter sans vérification. Aux États-Unis, c'était pire qu'ici, mais même au Canada, on avait quand même des gros breaks.
On a créé des ballons.
On a permis à des gens d'acquérir des actifs pour lesquels il n'y avait absolument pas les moyens. Puis c'est essentiellement ça qui a fait presque exploser le système économique mondial.
Il y avait le droit d'entrer, mais il n'était pas assez grand pour faire du manège.
Exactement.
qui avait eu cette idée-là?
Ben,
me semble que je connais pas grand chose.
Mais tu vois la catastrophe malgré
ça
tout.
Comme pas de bon sens.
C'est parce que il y a, tu sais, des fois c'est des idées qui proviennent de, comment je peux dire ça. Ça dépend toujours. Ton intérêt est où là-dedans. Mettons que toi t'es un constructeur. Ben toi, tu t'en fous un peu que la personne qui achète la propriété soit pas capable de la rembourser. Parce que toi t'es payé au jour 1. C'est 200 000 puis toi tu le reçois cash puis c'est fini après. Fait que toi, tu veux juste que les gens puissent acheter. Le reste, c'est pas ton problème. Si toi, tu es une banque, bien là, toi, tu dépends du fait que hey, le dude à qui je viens de prêter, lui, il faut qu'il rembourse. Fait que toi, tes intérêts sont totalement différents. C'est la même situation. C'est quelqu'un qui achète une maison. Mais t'es pas en même place pantoute dans le problème. Fait que souvent, les gens qui sont tout ce qui est, parce qu'on dit construire. Fait que les constructeurs, eux autres, ils disent hey, « enlever les réglementations ». Là, les villes, pendant ce temps-là, disent « c'est un peu, là, nous autres, on a des règles d'urbanisme ». Fait que, tu sais, dépendamment de t'es où dans la situation.
Dans la chaîne.
C'est ça. Tu vas avoir des intérêts différents. Fait que ça, c'est normal aussi. Fait que, tu sais, acheter sans mise de fonds, il y a déjà des programmes, en passant, qui existent pour ça. Mettons, en Ville de Québec, tu as le programme Accès Famille. Ça, c'est correct. Ça répond à un besoin. Ce dont on parle ici, c'est juste d'éliminer totalement les règles de mise de fonds. Ça fait pas de sens.
Dans les autres solutions qui font pas de sens, je veux t'entendre sur les amortissements à très, très, très long terme.
Ouais. Ben ça, c'est une autre chose qu'on a décidé d'arrêter en 2008-2009. Stephen Harper, essentiellement, vers la fin de la crise financière, a décidé que, regarde, nous autres, on va arrêter de répéter les erreurs des États-Unis, puis on va resserrer nous-mêmes les règles. Fait que tout ce qui est les nouveaux prêts hypothécaires, mm-hmm. on a ramené ça à 25 ans maximum.
Sur 40 ans, puis ces affaires-là. Là.
Exactement. Fait que là, une des solutions qui est proposée, c'est, là, on a vu il y a quelques semaines, ils ont augmenté à 30 ans la possibilité dans certains cas. On veut l'élargir encore. Là, il y en a qui disent, hey, on devrait mettre ça sur 40 ans. Fait que ce que ça fait, ça, c'est que, oui, c'est vrai, il y a des gens qui pourraient se permettre des maisons qui n'ont pas les moyens de se permettre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à la place de payer sur 25 ans, tu as payé sur 40, mm-hmm. fait que ton coût mensuel est beaucoup moins grand. J'avais pas les moyens à 2800, je les ai peut-être à 2300.
Mm-hmm. Ouais.
Par contre, il n'y a personne qui te fait de cadeau dans l'histoire. ton amortissement est plus long, 40 ouais. à la place de 25, fait que les banques sont très contentes. Parce qu'à la place de leur donner, je ne sais pas moi, 300 000 piastres en intérêt, tu vas leur donner 350, 375, 400 dans certains cas. Fait que est-ce que c'est vraiment de rendre un service à quelqu'un, d'augmenter la charge financière de sa propriété juste pour qu'il puisse rentrer dedans plus vite? Je pense pas. T'sais. C'est un peu la même affaire pour les stress tests.
C'est là. Quoi ça?
Le stress test, là, c'est, je sais pas c'est quoi le terme en français, là, mais ça sonne plus big en anglais. Fait,
le test de stress, Alex?
Oh non, ouais.
Je tente quelque chose. Là.
J'essaie de quoi? J'avais pas pensé à ça.
Je vois que les deux mots, mais j'ai inversé.
Ça fait trois jours que je suis là-dessus.
On aurait du brainstorm.
Ouais. Ben, ça, c'est le test de stress. C'est un bon. Mais ça sonne moins big. T'sais.
Ouais.
Fait que le test de stress, c'est de dire, OK, ben on va, avant de qualifier quelqu'un à une hypothèque, mettons que les taux sont à 5 %, on va voir s'il se qualifierait à 6,5 ou à 7, dépendamment,
okay.
pour que si jamais, justement, il y a une hausse des taux entre aujourd'hui et, mettons, dans 2, 3, 4, 5 ans, comme on a vécu récemment, ben la personne est quand même capable de maintenir ses paiements et quand même capable de renouveler à la hausse si jamais il faut le faire. Le but de ça était que, naturellement, on ne voulait pas que des gens se disent « Hey, ben les taux sont à 1 % 1,5 % je vais m'acheter une grosse, grosse, grosse maison. »
Acheter au-dessus de ses capacités et ses moyens.
C'est ça. Puis là, soudainement, quand les taux sont à 3, 3,5, 4, ben là, la grosse maison, on n'est plus capable de la payer. Parce
on
que...
a entendu des histoires comme celle-là ces temps-ci, ben, là, avec les hausses de taux. Là.
Fait que le stress test, c'est de... de protéger les gens contre eux-mêmes sur cet aspect bien précis-là. Fait qu'en réalité, c'est une bonne mesure. T'sais, oui, elle peut t'empêcher d'acquérir la première propriété, mais c'est un service qu'ils te font. Là.
Fait qu'est-ce qui marche pour vrai? Là? Mettons qu'on regarde les solutions qui ont du sens. Là.
Il y en a une qui n'est pas pire, qui a été proposée dans un des articles. C'est puis là, rendu là, il faut toujours savoir l'argent vient de où. Là. Mm-hmm. Mais quelqu'un disait, hey, on pourrait créer un fonds par le gouvernement du Québec, un genre de fonds, elle m'a dit 1 milliard de dollars, ça peut être n'importe quoi, mais...
Le... Appelons-le, je sais pas moi, le fonds des générations.
Ouais.
Déjà pris.
Mettons, c'est déjà pris, c'est malheureux.
Mais on va trouver un nom pas pire, puis ce que ça dit, ça, c'est, hey, on pourrait prêter jusqu'à 80 000 piastres de mise de fonds à quelqu'un qui veut s'acheter une maison. Mm-hmm. Fait que tu mets de l'argent entre les mains de ces gens-là, mais c'est un prêt. Comment ça fonctionne? C'est que quand tu revends la propriété, bien naturellement, tu as probablement fait un gain là-dessus, fait que tu redonnes le 80 000. Mmh. Puis en plus de ça, l'intérêt pourrait être un pourcentage de la plus-value. Fait que mettons, ta maison, elle a pris 200 000 en valeur, bien, il faut que tu rembourses 15 % de ça en plus. C'est okay. Ça ton frais. Fait que ça peut, oui, permettre à certaines personnes d'accéder à la propriété.
Tu vas me dire qu'il y a un « mais ».
Oui, ben c'est parce que le fonds, dans la proposition qui était faite, ce serait pour les gens qui n'ont pas l'aide de leurs parents. Mais tu sais, là, on est rendu à peu près 27 % des gens qui ont l'aide de leurs parents pour constituer une mise de fonds.
Mm-hmm.
Puis s'il y a un programme de même, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu as des wise comme moi qui, dans une planification financière, vont dire, ben regarde, donne pas d'argent à ton enfant tout de suite, attends 2 ans, ou peu importe ce sur quoi les règles de ce programme-là. Puis un don entre majeurs, c'est non imposable. Fait tu sais, ça sert un besoin qui existe, mais ça ouvre la porte aux abus.
Il va y avoir de l'abus. Construire?
Ben ça, c'est classique. On a un problème d'offre. Il y a beaucoup, beaucoup trop de demandes pour l'offre qu'il y a. Ça, c'est Guy Cormier qui était dans l'article encore en fin de semaine. Il disait « faut construire, faut construire, faut construire ». Pour vous donner une idée, là, au Québec...
On est comme en déficit. Hein?
Ouais, on serait supposé aujourd'hui avoir, ben pas aujourd'hui, là, mais dans l'année, avoir 150 000 chantiers de nouvelles constructions. Pour juste break-even, là, ouais. Pour répondre à la demande aujourd'hui. On est à peu près 40 000.
Ça, c'est désastreux.
Ça veut dire qu'il manque 110 000 logements. Fait que, ben, revenez dans votre cours d'économie de cégep ou de secondaire 5, là. J'ai bien beau augmenter, j'ai bien beau ce que je fais si je mets des programmes d'aide et d'accumulation de mise de fonds. Je stimule la demande, mais je fais rien pour mon offre. Mmh. Fait que ça va probablement juste augmenter les prix encore de façon artificielle. Une affaire qui est intéressante, là, c'est que... ça, je ne sais pas si c'est Guy Cormier qui l'abordait, mais c'était dans le même paragraphe. Là. Présentement, il y a une règle. On parlait des règles, des fois, qui sont contraignantes, que tu peux pas... les banques exigent, pour la construction d'un immeuble, là, que 60 % des unités soient vendues. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mises en chantier qui sont... reporter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez d'unités qui sont vendues. Un paquet. Fait que, si on venait diminuer un petit peu ce critère-là...
Assouplir les règles.
Parce que là, présentement, il y a un paquet de constructeurs qui sont comme « Voici mon plan, voici mon staff, on peut commencer à telle date, on est prêt, les pépins sont là. » Mais ils n'ont pas vendu assez d'unités.
Mais même avec un déficit comme ça, on garde des règlements comme ceux-là, on n'a pas plus confiance que ça au marché?
Ben encore là, ça dépend t'es où dans la chaîne. Mm. Mettons, moi, que je suis la banque, il y a un promoteur qui vient voir, puis il me dit « Hey, j'ai besoin de 12 millions en prêt pour bâtir ma belle bâtisse là, là-bas, dans Saint-Roch. » Lui, il va me dire « OK, va te prêter 12 millions, mais si jamais dans 2 ans, tu as 30 % de tes unités de vendues, moi, j'en marre, tu pourras pas me rembourser. Mm. » Fait que le 60 % minimum, il vient de là. Fait que, tu sais, si on demande aux banques « Hey, diminuez vos critères », mais là, les banques vont dire « Tu me demandes d'augmenter mon risque. » Ils vont regarder le gouvernement, ils vont dire « Compense-moi pour ça. » Le gouvernement, ouais, va dire « J'ai 11 milliards de déficit. » Fait que, tu sais, c'est beau sur papier, mais il est plus difficile à appliquer.
Alex, tu voulais parler des héritages aussi?
Ça, là, pour vrai, c'est le... Dans ma tête, là, c'est probablement l'aspect qui pourrait avoir le plus d'impact à long terme. Là. Moi, je le vois dans des planifications financières où on a bien de l'actif accumulé. Puis les parents, ils voient leurs enfants devenus adultes, tu sais, dans 20, 25, 30 ans. C'est tough, là. Tu sais, justement, les maisons sont chères. Mm-hmm. Il y a un paquet. eux autres, ils vont arriver à 95 ans, puis là, ils vont avoir 400 000 d'accumulés, puis ça va s'en aller à leur enfant qui a 60 ans.
Qui en a moins besoin, peut-être, qu'il en avait besoin dans la vingtaine ou dans la trentaine.
Exactement. Si tu regardes ça d'un simple point de vue pratique, c'est quand même cave. Tu sais, ton enfant, il n'a pas besoin d'argent à 60, il en a besoin à 28, 29, 30. Mm. Fait qu'on s'entend, il faut toujours le mettre dans une optique de planification financière puis penser aux impacts à long terme, là, parce que si je verse 100 000 à mon enfant aujourd'hui, bien, c'est 100 000 que je n'ai pas pour financer ma retraite. Mais ça reste que nous, quand on fait des plans de planif, là, on le considère ça, puis on plante la graine dans la tête de la personne. On dit, hey,
pour que ça vienne d'elle.
Ben, surtout parce que on a été, tu sais, ça fait des décennies que l'héritage, c'est ça. C'est je crève, puis à un moment donné, les trois enfants se splittent entre eux autres. Ça fait pas de sens vraiment, tu sais. Puis les règles fiscales favorisent justement les dons entre majeurs liés. Là. C'est vraiment,
donc l'héritage du vivant.
Hein? L'héritage du vivant au niveau fiscal, là, c'est super avantageux. Fait que juste de penser de cette manière-là, tu sais, le 40 000 qu'on peut mettre dans un CELIAP, ben peut-être que le parent, lui, il n'en a pas nécessairement besoin pour sa retraite, qu'il peut très bien le verser aujourd'hui, puis que ça n'a pas d'impact à long terme. Fait que ça, il n'y a pas une scène du gouvernement là-dedans. Il n'y a pas une banque qui prend plus de risques. Mais tout le monde est content, tout le monde gagne.
C'est un faux enjeu, ça, l'accès à la propriété, dans le sens où on a tout le temps l'impression que c'est un peu le cycle de la vie, tu sais, dès que t'es en moyen, tu t'achètes de quoi à toi, tu t'achètes une maison, whatever. C'est important? C'est important de passer par là absolument?
Moi, je juge que non. Dans une planification financière pour quelqu'un qui est de classe moyenne, là, souvent, puis là, je vais me faire lancer les tomates, mais c'est correct, souvent, la résidence principale est un facteur d'appauvrissement et non d'enrichissement. Parce que pendant des années, ils mettent une mise de fonds dans un actif, tu sais, dans un fonds qui va leur générer 8-9 % de rendement pour aller sacrer ça dans un actif qui, on l'a regardé tantôt, génère 4,45 % de rendement brut. Fait que là, j'ai pas encore payé mes taxes, j'ai pas encore payé mon intérêt, j'ai rien payé encore. Fait que tu sais, d'un point de vue strictement mathématique, t'as pas besoin d'une maison pour accumuler de la richesse, même que
t'as
plus
juste besoin
souvent,
de rigueur.
C'est ça. Plus souvent qu'autrement, c'est un frein. Ce qu'on voit toujours, c'est ben là, mon loyer me coûte 1100, je sac 1100 au feu, puis mon hypothèque, ben je revois cet argent-là. Fait que le calcul s'arrête là. En réalité, il faut se considérer que l'argent jeté par les fenêtres, il y en a en propriété aussi. Là, toutes tes taxes municipales, tes taxes scolaires, ton intérêt sur ton prêt hypothécaire qui représente des centaines de milliers de dollars, c'est de l'argent que tu sacs au feu aussi. Puis ultimement, l'actif dans lequel tu mets ton argent, au net, il risque de te rapporter à peu près là, 1-1,5%. Alors que tu as d'autres options. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire. Parce que si toi, ton idéal dans la vie, c'est d'avoir ta maison, c'est bien parfait. Mais si tu le considères comme, hey, c'est ça mon investissement principal, puis c'est avec ça que je constitue mon patrimoine, ben, d'un point de vue mathématique, ça ne fait pas vraiment de sens. Fait que ça ne veut pas dire de ne pas le faire, mais juste, si c'est que ça que tu fais pour t'enrichir, ça ne marche pas.
Fait que dans le fond, on a l'alarmisme un peu facile. Il faut juste peut-être prendre un peu de recul par rapport à... Parce que c'est un discours qui est à la mode, là, de dire « Tabarnouche, les jeunes, c'est tough, là, avoir accès à la propriété. »
Exact. La réalité, c'est que ça a toujours été tough. Ça ne veut pas dire que c'est facile aujourd'hui, mais c'est l'espèce de mythe que les boomers ont eu une maison gratis parce que ça coûtait 22,50. Tu sais, c'est pas vrai.
Souvent, il y avait juste un salaire à ce moment-là. Puis ouais. La plupart se sont servis de leur première maison pour être un tremplin pour la deuxième. Là, tout de suite, tu as 25 ans, un chum, tu regardes un bungalow sur deux étages dans un quartier central avec un grand terrain. Ouais. Tu sais, on oublie les premières maisons de nos parents, je pense.
Ça, c'est vrai. Puis c'est vraiment un bon point, là. Fait que les boomers l'ont pas eu si facile que ça là-dessus. Là, si vous voulez blâmer les boomers parce que vous aimez ça, dites-leur qu'ils ont quasiment pas payé leur RRQ. ça pourrait être une chronique pas pire.
On va se rattraper là.
Puis tu sais, je regardais, puis ça c'est un peu une blague là, mais tu sais, l'article en fin de semaine, il y avait comme il y avait quelqu'un qui disait, hey, moi je me suis acheté une maison à 22 ans, puis j'ai travaillé, puis j'ai épargné, puis tu sais, c'était comme, ok, oui c'est vrai ça existe, puis lui il l'a bien fait. Puis il y avait une des personnes qui était dans l'article qui il disait, hey, moi, j'ai abandonné le rêve de la propriété, puis j'aurai jamais de maison, puis tout ça. Là, tu lis, tabarnak, c'est pas le fun, tu sais. Puis tu lis, puis tu vois que le gars, il fait une maîtrise en philosophie. Là, je suis comme sacrifice. J'aurais pu te le dire quand tu t'es inscrit, là. Ça finirait de même, là. Non, mais tu sais, c'est. Il y a comme. On prend ce. Je blague, là, mais on prend ce cas-là, puis on l'applique à. Les jeunes. Mais c'est pas vrai, tu sais.
Non.
C'est une personne qui a fait un choix qui, peut-être, est le bon pour elle, puis elle tripe là-dedans.
Un choix philosophique.
Un choix philosophique. Ouais. Fait que, tu sais, vit des conséquences de ce choix-là, mais c'est pas vrai que ça s'applique à l'ensemble d'une génération, ce qui est un peu le message véhiculé par l'article.
Et est-ce qu'ils y tiennent autant que nous autres, on y tenait la nouvelle génération à la propriété en tant que telle? Je sais pas.
Honnêtement, je pense que non.
Ben, regardez les rythmes de vie, j'ai l'impression que c'était pas la priorité.
Écoute, moi, dans mes... parce que j'ai des clients de 25, puis j'ai des clients de 75, puis j'ai pas mal... Dans ce que tu sais, dans le day-to-day de ce que je travaille avec les clients jeunes, là, je planifie pas mal plus d'années sabbatiques
puis de voyages
voyage que de maisons. Puis c'est bien correct.
Ben
c'est super cool.
Mais on veut tout.
Fait que,
on est comme
ça. Je te dis pas que ça existe pas, parce que naturellement, ça existe. Là. Il y a des transactions immobilières qui se font. Là. Mais justement, peut-être que dans les priorités des générations, il y a quelque chose qui évolue.
Alex Leblond, planificateur financier, merci beaucoup.
YOLO, hein?
Ben oui, YOLO, comme qu'ils disent. Ouais. On va tous partir en sabbatique d'un an, là, voyager à travers le monde, peut-être quitter cette réalité qui nous rattrape, celle du trafic, entre autres choses, Max.
C'est vraiment, mais vraiment pas chic présentement. Caroline, puis là, une autre affaire. Henri IV Sud.
Bon, ça déboule.
C'est en temps réel.
Ça déboule.
Henri IV Sud, accès pour le pont de Québec partiellement entravé, Changeur boulevard Laurier par un accident. Puis ce qui est poche, c'est que ça allait déjà très, 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 très mal dans le secteur des ponts en raison de ce camion vraisemblablement en feu là, sur la 20 ouest dans le coin là, de la hauteur de la route des Rivières. Ce qui fait que 20 ouest s'est bouché à partir de Chemin des Îles jusqu'au secteur des ponts. Mais ça fait aussi que l'accès au pont Pierre-Laporte direction sud, ça refoule déjà jusqu'à l'autre bord de la 40. Puis quand je dis refoule, c'est pas du petit rouge-orange. Là. C'est du rouge foncé. Fait que ça va vraiment pas bien dans le secteur des ponts. Sinon, il y a aussi la capitale où c'est difficile entre le boulevard Neuvial et à peu près l'avenue Godin. Capitale direction ouest entre boulevard Henri Bourassa et Laurentienne. C'est au ralenti également.
Il y a un party d'écoute présentement à Londres et des gens sélectionnés sur le volet sont en train d'écouter en premier, avant le reste de l'humanité, le nouvel album de Linkin Park, From Zero. Et les échos qui nous proviennent de Londres sur les réseaux sociaux sont très positifs. On parle de banger after banger after banger. Ça veut dire que les tunes rentrent, puis les gens sont contents. La première carte de visite a convaincu bien du monde sur cette nouvelle mouture de Linkin Park. On écoute The Emptiness Machine. Your blades are sharpened with precision.